Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Il y a 15 ans, le prix Nobel de la paix était conjointement décerné au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et à Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, pour leur engagement dans la lutte contre les changements climatiques, parce qu'il amplifie les risques et les menaces. Le changement climatique, c'est déjà une réalité, affecte la paix et la sécurité internationale un peu partout dans le monde et particulièrement dans certaines régions, Proche et Moyen-Orient, bandes sahélo-sahariennes, Asie du Sud pour n'en nommer que quelques-unes. Exacerbation des tensions en tout genre, risque de crise ouverte voire de conflit. La solidarité internationale devient un impératif à mesure de la prise de conscience des répercussions de cette évolution sur la sécurité humaine. Déplacement de populations, exacerbation des sources connues de conflits que sont la pauvreté, la difficulté accrue d'accès à l'eau, l'insécurité alimentaire ou les chocs économiques, sans compter les enjeux stratégiques, élévation du niveau de la mer et intégrité territoriale. Le changement climatique comme menace à la paix et à la sécurité internationale. Regard sur les enjeux stratégiques avec nos invités. Julia Tasse, chercheuse à l'IRIS et responsable du programme de recherche climat, énergie et sécurité. Bonjour.
Bonjour.
Nicolas Regaud, conseiller climat du major général des armées et directeur du groupe de travail qui a élaboré la stratégie climat et défense du ministère des armées, ancien chercheur à l'IRSEM et co-directeur avec Bastien Alex de la guerre chaude aux presses de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Et Bastien Alex, précisément responsable du programme climat et énergie au World Wide Fund for Nature, qui est le WWF France, chercheur associé à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Il est écrit en quatrième de couverture de l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Nicolas Regaud et Bastien Alex, dans lequel vous avez co-écrit un chapitre, Juliata, sur l'Asie. Un monde plus chaud sera aussi un monde plus violent, alors qu'une hausse des températures d'à peine 1 degré depuis l'ère pré-industrielle a déjà des conséquences préoccupantes pour la sécurité nationale et internationale. Il ne fait pas de doute, dites-vous, que cette tendance va s'amplifier et nous faire entrer dans une longue période de tension. Quel est aujourd'hui le panorama des risques stratégiques et opérationnels associés au dérèglement climatique? Je ne sais pas qui souhaite commencer. Nicolas Regaud.
Oui, c'est une question très vaste. Quand vous dites que le changement climatique affecte la sécurité humaine, c'est donc la stabilité, la résilience de beaucoup de sociétés qui est mise à rude épreuve. Alors, il n'y a pas d'effet mécanique. Vous savez, les crises et les conflits ne sont pas liés à tel ou tel facteur de manière simple. C'est une origine multifactorielle et le changement climatique va exacerber, amplifier des risques déjà existants. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la faim, ce n'est pas le manque d'eau qui génère des crises ou qui génère des conflits interétatiques ou intra-étatiques, mais le changement climatique, en amplifiant ces difficultés que vous avez mentionnées, les risques de submersion, donc de disparition aussi de certains territoires, voire de pays, quand on pense aux petits pays insulaires, c'est déjà une menace vitale. Donc vous voyez bien que la sécurité au sens premier du terme, la survie de tel et tel petit État est en jeu à un horizon proche, de l'horizon de 30-50 ans. Donc au-delà de ces cas extrêmes, le changement climatique va donc modifier profondément le paysage international, exacerber parfois les tensions entre États pour liées aux difficultés d'accès à certaines ressources, la compétition plutôt pour l'accès à certaines ressources, les grands fleuves nourriciers que sont le Nil, les grands fleuves prenant leur source dans l'Himalaya, le Mékong par exemple, aujourd'hui font l'objet de tensions entre les pays en amont et en aval parce que la ressource hydrique est naturellement au cœur du stress lié au changement climatique. C'est absolument vital pour beaucoup de pays. Donc, le paysage stratégique va changer. Ça veut dire aussi que le théâtre des opérations de maintien de la paix ou des opérations de paix va aussi changer pour les armées. Il va falloir intervenir dans des paysages, dans des pays, dans une situation de grand chaud. Et ça représente des contraintes très importantes pour les hommes, pour les matériels. C'est aussi le cas pour les théâtres dits grand froid, c'est-à-dire les théâtres nouveaux de présence pour beaucoup d'acteurs. L'Arctique est une région qui connaît un réchauffement 2 à 3 fois plus élevé que le reste de la planète, l'effet de fonte sur les glaciers, les glaces de mer et la banquise, eh bien, a permis un développement d'activité économique, d'activité maritime et aussi une certaine compétition de puissance. Et donc, il nous faut aussi être présents dans cet espace, et cela veut dire que nous sommes confrontés à une adaptation, à des conditions météorologiques qui sont très contraignantes. Ça, c'est un premier panorama, mais disons qu'il faut bien comprendre que le paysage stratégique, opérationnel, les capacités, nos types de missions vont évoluer, vont devoir s'adapter. Et le grand maître mot de tout cela, c'est bien sûr de contribuer autant que possible aux efforts collectifs d'atténuation, mais c'est de s'adapter à un monde nouveau et qui malheureusement est un monde certainement plus violent et plus contraignant.
Alors, cet ouvrage que je mentionnais en introduction, donc « La guerre chaude, enjeux stratégiques du changement climatique », ce qui fait son originalité particulière, c'est que c'est l'un des tout premiers ouvrages à traiter de façon approfondie des liens entre dérèglement climatique et politique de défense. Et vous venez de le mentionner, Nicolas Regaud, de l'adaptation des armées aux défis posés. Cette prise en compte des implications du changement climatique sur la défense et sur la sécurité nationale et internationale, elle n'est pas allée de soi, Bastien Alex. Elle s'est installée de façon assez, assez lente, pour ainsi dire, avec les Américains qui peut-être ont été les premiers dans les années 1980 à poser des bases de cette réflexion.
Oui, alors comme bien souvent, les Américains sont un petit peu en avance sur nous, mais on disait c'est une avance qu'on a rattrapée ces dernières années. Oui, je crois qu'il y a cette profondeur de la réflexion stratégique américaine qui a toujours un temps d'avance pour essayer d'anticiper les futurs risques et menaces qui peuvent tout simplement challenger sa place de première puissance. Il y a l'étendue de son territoire qui l'expose aussi à différentes natures de risques qui fait qu'il y a cette vigilance. Je pense qu'il y a eu effectivement des premiers travaux en 80, une accélération peut-être dans les années 90 avec des impacts violents. Je me souviens de ce cyclone qui avait frappé une base américaine, le cyclone Andrews en 1992, qui avait quasiment détruit une base, détruit des avions de combat aussi. Donc ça aide aussi à prendre conscience de l'ampleur des impacts potentiels et donc à se préparer. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il y a eu énormément de travaux et de publications de documents stratégiques, de prise en considération du sujet, de mise à l'agenda aussi international, toujours dans cette volonté de conserver un temps d'avance sur les autres nations et d'être en mesure d'anticiper les menaces qui pèseront demain pour conserver cet avantage stratégique.
Avec cette particularité, mais qui est aussi partagé par d'autres pays dans d'autres régions du monde, c'est que beaucoup de villes américaines sont placées sur le littoral des États-Unis. On l'a vu il y a quelques années avec une grosse tempête aussi sur la ville de New York et la montée des eaux, donc un impact évidemment très précis pour les États-Unis, comme c'est le cas aussi, on va en parler avec vous, Julia Tass, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Mais sur les États-Unis, c'est une réalité aussi qui a peut-être généré aussi cette réflexion anticipée par rapport à d'autres pays, Bastien Alex.
Oui, bien sûr. Je crois que c'est aussi ça qu'il faut toujours bien comprendre, c'est qu'on a une géographie très diversifiée au niveau américain en raison de la taille du pays. Et ils sont évidemment concernés par tous les impacts. On a souvent tendance à mettre en avant les impacts qui vont frapper les pays les plus vulnérables, dit les pays en développement. Mais les États-Unis sont, entre guillemets, un excellent champ d'analyse pour les impacts du changement climatique, parce qu'ils sont tout à fait concernés par les méga incendies, par les sécheresses, par les tempêtes blizzards qui ont frappé New York ces dernières années, par la multiplication du risque ouragan aussi. Donc ils sont tout autant concernés que beaucoup de pays qu'on a tendance à placer en avant sur l'échelle de vulnérabilité. Ils ont peut-être plus de moyens de résilience, mais en tout cas en termes d'exposition à l'aléa, ils sont tout aussi concernés que les pays les plus vulnérables.
Julia Tass, votre commentaire sur ce qui s'est dit jusqu'à présent et peut-être le comparatif à faire avec, après ça je vous repasse la parole, Nicolas Regaud.
Alors pour ce qui est des États-Unis, effectivement, il y a d'une part l'exposition du territoire américain, et puis il y a cette volonté d'anticiper en permanence ces moyens financiers aussi qui sont mis au service de l'anticipation. Je trouve ça assez intéressant aussi que ce leadership américain ait entraîné d'autres pays, notamment européens, à repenser cette question. Aujourd'hui, on se rend compte en Europe que l'on est touché par les impacts du changement climatique, et la France a une place toute particulière, puisqu'en raison de ses territoires outre-mer, elle est frappée de la même manière que le territoire américain est frappé dans le continent américain, mais aussi sur ses territoires outre-mer. La France est frappée en métropole, mais aussi dans ses territoires outre-mer. Et c'est ça qui nous distingue un peu de beaucoup d'autres pays qui pensent la question. C'est notre exposition variée et internationale à tous les impacts du changement climatique. Et ça me permet d'apporter le sujet asiatique qu'on va peut-être évoquer après. parce que nous disposons de territoires dans l'espace Indo-Pacifique, nous partageons avec certains États asiatiques des problématiques communes, notamment la montée du niveau des eaux, qui concerne un peu moins le territoire métropolitain, même s'il y a eu des projets récents autour de l'adaptation du littoral métropolitain à ces questions-là. Et donc, le fait de partager ces grands enjeux, ça va nous donner une voix au niveau international qui est différente et qui est toute particulière.
Alors là, vous alimentez le moulin de Nicolas Regaud et vous me faites la transition. Merci, Julie Attas. Nicolas Regaud, alors sur la place de la France et l'évolution de la pensée française sur ces questions et la réflexion stratégique française aujourd'hui.
Ce que vient de dire Julia est exactement ce que je souhaitais aussi souligner. C'est que la place à part est... La France est aujourd'hui un peu en position de leader, enfin dans le peloton de tête des pays qui sont les plus engagés dans une réflexion, mais aussi dans l'action en matière d'adaptation aux impacts de sécurité, aux impacts stratégiques du changement climatique. Ça tient beaucoup à notre géographie qui est si particulière. L'État archipel dont parlait le président Macron, présence dans l'Indo-Pacifique, en Atlantique, dans des zones vulnérables qui sont tropicales, subtropicales et qui sont plus touchées que d'autres. Donc ça nous distingue beaucoup de nos partenaires européens. Qui ont une problématique, je dirais, européenne. Mmh. Et donc, l'Europe est quand même, reconnaissons-le, moins touchée, moins affectée, en tout cas de manière moins aiguë que beaucoup d'autres régions du monde. Alors, ça a aidé naturellement. Ce contexte géographique et géopolitique a aidé à ce qu'il y ait une prise de conscience plus forte. Après, ce sont des facteurs que l'on divers et variés. Il y a eu un retard dans la réflexion stratégique, je pense, en France. Bastien Alex, très modeste, oublie de mentionner qu'il a piloté une étude qui a fait date en 2014 à la demande du ministère de la Défense sur les enjeux de défense du changement climatique, qui a aidé vraiment à dire non seulement c'est grave, mais voilà ce qu'on peut faire. Mm-hmm. Voilà comment on peut agir. Quels sont les sujets les plus critiques et voilà comment on peut s'adapter, en tout cas réfléchir en termes d'adaptation. Ça a été très important. Et puis, rappelez-vous peut-être la conférence de 2015, une grande conférence internationale que j'ai eu l'honneur d'organiser, des ministres de la Défense et des hauts responsables de défense du monde entier. Donc, il y avait 36 délégations internationales, 16 ministres, etc., qui a posé la question des enjeux de défense et de sécurité du changement climatique. Quelques semaines avant la COP21, c'était naturellement voulu. C'était une manière de contribuer à cette prise de conscience générale des impacts dramatiques du changement climatique. Et ça a permis de lancer beaucoup de choses, notamment un observatoire que Bastien, Alex et Julia Tass ont ou actuellement dirigent. Ce sont des outils de connaissance. Ça a permis de lancer beaucoup d'initiatives. Et je pense que la France a démontré au cours de ces dernières années son rôle assez particulier, surtout au moment où les États-Unis s'étaient un peu effacés, même complètement effacés de cette problématique du temps de l'administration de Trump. Aujourd'hui, c'est le retour. Mais pendant 4 ans, le Pentagone a été aphone, complètement impossible pour lui-même d'utiliser le terme de changement climatique.
Il y a toujours cette menace, d'ailleurs, c'est-à-dire que le retour des démocrates à Washington est un retour qui peut être remis en question, en jeu, dans 2 ans. Alors, sur quoi porte au jour d'aujourd'hui ? Après ça, on abordera la question des zones particulièrement vulnérables, on les détaillera, d'autant que la guerre en Ukraine a aussi des impacts sur la façon dont sont traitées les questions liées au changement climatique. Je pense en particulier à la région arctique. Bastien Alex, un commentaire peut-être sur ce que vient de dire Nicolas Regaud pour...
Sur les problématiques d'adaptation, notamment des forces armées, je pense que l'image qu'on a aujourd'hui des sujets défense et climat, on en a déjà évidemment dit une partie, mais je crois que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a 4 grands sujets. Le premier, c'est l'impact du changement climatique sur les hommes et les matériels, qui a été mentionné par Nicolas tout à l'heure. Le second, c'est l'impact sur les infrastructures stratégique et militaire, qui est quelque chose de fondamental, notamment, par exemple, en ce qui concerne la résilience en temps de crise, Il faut que les infrastructures des armées soient résilientes et puissent intervenir au moment où on a le plus besoin d'elles et où elles sont les seules à être potentiellement debout. Donc, par exemple, tout ce qui est piste d'atterrissage ou génération d'électricité, ce sont des capacités qui ne sont pas toujours détenues par les armées. Il faut s'assurer qu'elles soient opérationnelles dans le cas d'une catastrophe naturelle. Donc, c'est indispensable d'avoir cette évaluation de la vulnérabilité des infrastructures militaires pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle en cas de crise. Je dirais qu'il y a le sujet de la réduction de l'empreinte carbone qui a aussi été évoquée, qui est un sujet assez touchy, hein, il faut bien le dire, parce qu'on considère aussi que la prérogative d'une armée, c'est d'abord avant tout l'efficacité, notamment en cas d'urgence, mais chacun doit faire sa part, donc il y a beaucoup de leviers d'atténuation à proposer, hein, ne serait-ce que sur la consommation des emprises. Hein. Je rappelle que je crois que l'armée est toujours le premier propriétaire terrien en France, donc sur la conso d'électricité et l'origine de cette électricité sur place, sur les carburants, sur les consos des matériels. Et je dirais qu'il y a aussi, Nicolas le mentionnait tout à l'heure, la question des missions et de l'évolution des missions des forces armées. Et peut-être qu'au-delà de, c'est vrai, le prisme sécuritaire qui est souvent vu comme la sécurité et la conflictualité, il y a aussi la sécurité humaine, on en a parlé tout à l'heure au début de l'émission. Peut-être qu'on va aller vers une amplification et augmentation des missions à caractère sécurité humaine des armées, notamment lors des catastrophes naturelles. Et j'écoutais encore ce matin que, tout simplement, l'augmentation des incendies pose question, nécessite des moyens supplémentaires que la sécurité civile n'est pas toujours en mesure d'apporter. Il y a une opération qui est déployée depuis des années maintenant, l'opération Héphaïstos, qui surveille les massifs forestiers pendant la saison des incendies. C'est vraisemblablement une mission qui va prendre de l'ampleur et qui aura besoin du soutien, effectivement, des armées. Donc, on va avoir toutes ces évolutions à prendre en compte pour tout simplement que l'outil militaire soit parfaitement en accord avec les impacts du changement climatique qui ne sont pas, encore une fois, uniquement liés à la sécurité, à la conflictualité, j'entends.
Alors, cette adaptation, il nous reste 3 minutes avant la fin de cette première partie d'émission, le temps passe évidemment vite, cette adaptation des forces armées au changement climatique, c'est une chose. Il y a peut-être un aspect qu'on n'a pas encore abordé, tout ça pour ne pas me lancer dans la carte des régions les plus vulnérables, parce qu'on n'aura pas le temps et on serait coupé. L'aspect du lien entre changement climatique et les conflits dans le monde, c'est un lien qui fait débat, notamment aux Nations Unies. Pour quelles raisons, Julia Tass, ce débat, et quelles sont finalement les raisons du scepticisme des uns ou des autres?
Alors, ça a été mentionné tout à l'heure par Nicolas Rigaud. Les conflits ont des origines multifactorielles, donc il est très difficile de les isoler, d'isoler ces facteurs les uns des autres. Et effectivement, ça fait débat. Le dernier rapport du GIEC, donc le troisième livret qui est sorti récemment, s'est posé la question des liens entre changement climatique et tensions et conflits, et a effectivement conclu qu'il était très compliqué de faire un lien direct. Donc, le changement climatique va apposer une pression supplémentaire sur les populations qui peut les mener à entrer en conflit avec leurs voisins ou avec des nations plus lointaines. Mais c'est très compliqué d'un point de vue quantitatif, surtout, d'isoler les liens, de défaire les liens, de les étudier. Et il est déjà compliqué d'établir de manière certaine un lien entre le changement climatique et certains événements climatiques extrêmes, comme l'année dernière, les inondations en Europe. Ça a été fait très rapidement, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il est compliqué d'établir un lien entre changement climatique et événements climatiques extrêmes, et donc encore plus compliqué d'établir ce lien à plus long terme avec les réactions que les peuples peuvent avoir.
Alors, Nicolas Rigaud, très rapidement, vous souhaitez...
Néanmoins, nous sommes déjà dans une situation qui est souvent très tendue au niveau international. Je pense que tout le monde a vraiment pris conscience des impacts très douloureux du changement climatique sur les feux, sur les événements climatiques, sur l'aridité dans telle ou telle région. À 1,1 degré en moyenne dans le monde, quand sera-t-il quand le monde connaîtra 2 degrés? Parce que malheureusement, nous sommes bien sur cette tendance et au milieu du siècle, voire à 3. Donc on peut aussi quand même s'inquiéter de liens plus directs entre violence politique et changement climatique dans les décennies à venir.
On vous retrouve, Nicolas Rigaud, avec Julia Tass et Bastien Alex, après le journal. À tout de suite. Thank you.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Climat et enjeux stratégiques, nous retrouvons nos invités. Julia Tasse, chercheuse à l'IRIS, responsable du programme de recherche climat, énergie et sécurité. Nicolas Regaud, conseiller climat du major général des armées et directeur du groupe de travail qui a élaboré la stratégie climat et défense du ministère français des armées. Ancien chercheur à l'IRSEM et co-directeur avec Bastien Alex de l'ouvrage intitulé « De la guerre chaude aux presses de Sciences Po ». Et Bastien Alex, responsable du programme climat énergie au WWF France. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur le lien entre changement climatique et conflit qui fait débat. On l'a dit, les raisons, c'est que finalement tout est multifactoriel et qu'il n'y a pas une raison, même si par exemple sur la guerre au Darfour, au Soudan ou la Syrie, des liens plus ou moins directs ont été faits. Donc un certain scepticisme, Bastien Alex, auquel vous souhaitiez rajouter quelque chose.
Oui, je crois que c'est vraiment, on est toujours sur une ligne de crête, c'est-à-dire que à la fois on est quand même force de constater qu'il y a des liens qui existent indirects, qu'on ne peut pas ignorer. Donc il faut les mettre en avant sans le faire trop, sinon notre parole peut être décrédibilisée. Et puis, parce qu'on va être taxé d'alarmiste ou de catastrophiste. Et il y a un enjeu aussi très important qu'il ne faut jamais perdre de vue, et vous mentionnez le cas du Darfour, c'est le risque de dépolitisation des causes des conflits. Comme on l'a dit, les conflits sont multifactoriels. Bon, on n'apprend rien évidemment, tout le monde le sait, mais le risque à chaque fois...
Dépolitisation et donc déresponsabilisation.
Exactement, exactement. Et l'exemple du Darfour est très parlant, puisque c'est des mots qu'on a entendus dans la bouche d'Omar El-Béchir, qui disait « Ah oui, c'est terrible ce qui se passe au Darfour dans mon pays. Le changement climatique est en cause, etc. etc. » Bon, il avait évidemment une lourde responsabilité dans le déclenchement des hostilités et dans leur poursuite. C'est aussi une dépolitisation qu'on a retrouvée dans les justifications données par Bachar al-Assad au conflit qui continue malheureusement de déchirer son pays. Hein. C'est pas moi, c'est le changement climatique. Donc, toujours cette ligne de crête, faire attention à conserver à l'esprit que, évidemment, les causes des conflits principales sont bien souvent politiques. Et comme on l'a dit déjà et incité dessus, le changement climatique vient se rajouter comme une couche supplémentaire qui exacerbe des tensions déjà existantes. Sur peut-être la manière dont ça se matérialise au Sahel, il y a peut-être deux exemples qu'on peut donner rapidement. Il y a une dimension vraiment, je dirais, intra-étatique qui peut être liée à la manière dont ça impacte les conflits éleveurs-agriculteurs, qui sont des conflits évidemment très anciens. Ils n'ont pas commencé avec le changement climatique, mais aujourd'hui, ils sont exacerbés tout simplement parce qu'on a une évolution de la pluviométrie et notamment de ce qu'on appelle la variabilité interannuelle, où on a du mal à déterminer l'évolution des précipitations et donc à prévoir la durée des périodes de soudure, les déplacements des éleveurs. Il y a un front pionnier d'agricoles qui avance aussi et qui grignote sur l'espace des agriculteurs, des éleveurs pardon, qui baladent un petit peu leurs troupeaux dans la bande sahélo-saharienne. Et ça crée effectivement une pression supplémentaire, tout simplement pour la ressource en eau et la ressource en fourrage. Donc là, il y a un lien, pas direct, mais en tout cas, c'est assez net. Ce sont des choses qui vont être renforcées par le changement climatique. Si on peut prendre un exemple, je dirais, interétatique, ça a été aussi mentionné au début, c'est le cas du Nil. Effectivement, on s'interroge beaucoup sur l'évolution des précipitations dans la région du lac Tana, qui est la source du Nil bleu, qui est le principal affluent du Nil. Si on a effectivement un stress hydrique important, vous avez tous entendu parler de la construction de ce méga barrage, le plus gros barrage en Afrique, le grand barrage de la Renaissance, qui est en construction en Éthiopie. La retenue d'eau qui n'est pas encore remplie au maximum, mais quel impact ça aura sur l'approvisionnement en eau de l'Égypte? Comment, dans des contextes de stress hydrique exacerbé, on disait tout à l'heure qu'on est à plus 1,1 degré au milieu du siècle, si on est à plus 2, plus 3? Quel impact aussi, et ne jamais oublier qu'au-delà des évolutions des mesures de précipitation, de la pluviométrie, c'est aussi la perception qu'auront les États de ce que font ou pas les autres. Et on peut très bien avoir, comme on disait, dans l'exemple d'Arfourie ou autre, ce facteur climat qui sera utilisé pour se défausser parfois, alors qu'effectivement, ça sera plutôt en lien, par exemple, avec les prélèvements qui sont faits par l'Éthiopie. Et en fonction de la manière dont sera perçue par l'Égypte, elle pourra tout à fait décider de passer à l'acte si elle s'estime menacée, non pas par le changement climatique, mais par les agissements de son voisin. Donc on est obligé d'avoir ces scénarios en tête.
Donc des tensions qui viennent s'ajouter aux tensions, savoir qui fait le plus ou qui fait le moins et montrer du doigt. Alors effectivement, la bande sahélo-saharienne fait partie de ces chapitres abordés dans l'ouvrage La guerre chaude comme l'une des zones particulièrement vulnérables. Elle n'est pas la seule. Il y a l'Arctique. On en dira deux mots avec vous, Nicolas Regaud, sur l'Arctique. Il y a aussi donc le Proche-Orient. Et puis avec vous, Julia Tasse, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, vaste zone du Pakistan aux Philippines, parmi les plus affectées, donc, et notamment en raison de la densité démographique.
Oui, il y a un premier facteur qui est évidemment la densité démographique de cette région, en particulier sur les côtes. Donc beaucoup de ces populations se retrouvent sur les côtes. Et puis c'est une région qui est exposée à, j'allais dire, quasiment l'ensemble des impacts du changement climatique que l'on peut lister. La montée du niveau des eaux qui va impacter des deltas comme ceux du Mékong, où il y a une forte culture rizicole. Les problèmes en termes de capacité hydrique, d'accès aux ressources en eau potable notamment, qui va se poser pour les fleuves. Donc je ne vais pas revenir sur l'exemple proposé par Bastien Alex, mais on retrouve le même type de dynamique sur les grands fleuves issus de l'Himalaya. Et puis, on peut l'observer en ce moment, en Inde, des épisodes caniculaires très importants, un changement de la régularité de la mousson et de la manière dont ça va venir irriguer certaines cultures. Et donc, malheureusement, l'Asie du Sud et du Sud-Est constituent presque un laboratoire de ce qui peut se passer pour ce qui est de sécurité et changement climatique. Et donc, c'est une région qu'il faut continuer à observer et qui doit se mobiliser très rapidement pour faire face à ces impacts, pour s'y adapter. Et sur des territoires aussi vastes que le territoire indien, c'est très compliqué pour les gouvernements de prévoir les politiques nécessaires pour répondre à des besoins en eau potable, aux besoins des populations en cas de canicule, en cas de mousson, en cas de pluie extrême. Et en fait, ces épisodes-là peuvent être parallèles, c'est-à-dire qu'il peut y avoir sur un même territoire national des événements climatiques extrêmes de nature très différente. La question de la coopération, elle est essentielle dans cette région, puisque certains de ces États sont exposés aux mêmes impacts du changement climatique et il va falloir qu'ils travaillent ensemble pour y remédier. Et certains de ces États aussi partagent des fleuves, des populations qui peuvent voyager ou qui ont des liens culturels très forts entre différents États. Et donc la question de la coopération se pose très fortement dans cette région, notamment au niveau d'organisations régionales comme l'ASEAN, mais aussi avec des partenaires étrangers qui vont pouvoir appuyer les forces de sécurité civile et de sécurité de cette région pour porter secours à des populations en cas d'événements climatiques extrêmes.
Et alors je reprends quelques éléments chiffrés de votre chapitre, Julia Tass. L'Asie-Pacifique enregistre près de 70% des déplacements internes liés aux catastrophes dans le monde, avec plus de 21 millions de déplacés en 2020, un nombre bien supérieur à celui causé par les conflits, et l'Asie du Sud qui pourrait connaître 40 millions de migrants climatiques internes d'ici 2050, avec petit focus sur le Bangladesh où la salinisation des sols et l'érosion des côtes et les catastrophes climatiques paupérisent les populations. Nicolas Rogaud a un commentaire peut-être sur une région que vous connaissez bien, l'Asie, et quelques mots aussi sur l'Arctique, hein, qui fait partie donc des zones particulièrement vulnérables, et cette conséquence de la guerre en Ukraine qui est la mise entre parenthèses du Conseil de l'Arctique, à un moment où précisément, je ne vais pas dire qu'il y a urgence, mais en tout cas, focus sur l'Arctique se fait de façon de plus en plus prégnante.
Oui, alors, vous abordez à la fois l'Asie et l'Arctique. Je peux essayer de faire des points de comparaison. Je pense que le point de comparaison se fait à travers la question de la coopération. La coopération, elle est de nature politique sur les ressources hydriques. Pour l'instant, au niveau international, elle est très développée. Mais évidemment, elle peut être impactée par le changement climatique qui va remplacer le stress par des accords de coopération pour le partage des eaux, de fleuves ou de lacs ou de mers. La coopération, elle peut aussi se développer pour porter secours aux populations en cas de catastrophe naturelle. C'est très important. L'Asie du Sud-Est ou en Asie du Sud, Julia a bien montré que c'est une région particulièrement vulnérable à ces événements climatiques extrêmes, cyclones extrêmement fréquents et d'intensité croissante. C'est ça, le changement climatique. C'est une intensité croissante de ces événements-là, donc extrêmement destructeur. Donc il y a un travail à faire à la fois en interne, c'est-à-dire sur la résilience des populations. Et on voit bien qu'aujourd'hui, des pays qui se sont pris en main arrive à réduire les effets de destruction et les effets sur les populations parce qu'ils ont mis en place des politiques de prévention.
Quelques exemples, Nicolas Rogaud.
En Bangladesh particulièrement. Le Bangladesh, qui est très, très, très vulnérable à ces événements réguliers, c'est bien organisé. Les Philippines également, depuis le cyclone Haiyan qui avait été incroyablement destructeur, c'est mobilisé. Néanmoins, on ne peut jamais dire qu'on est prêt. On peut dire qu'on est un peu plus résilient, qu'on est un peu mieux préparé. Et il y a toute une coopération internationale qui peut se développer dans ces domaines-là. Et ça peut concerner également la défense, puisque quand même, c'est le fil conducteur de l'ouvrage. C'est qu'est-ce que font les forces armées dans ces domaines-là. Elles peuvent faire plus. C'est parfois aussi très difficile, parce que les tensions géopolitiques entre États, parfois, ne peuvent pas se dissoudre, si j'ose dire, dans le vert de la coopération pour les opérations humanitaires post-catastrophe. Les tensions entre États restent fortes et par exemple entre l'Inde et le Pakistan, eh bien, il est très difficile de faire coopérer ces deux États, même sur des sujets de sécurité humaine où ils pourraient, en toute logique, on pourrait imaginer que ce soit des terrains non pas de confrontation et de compétition, mais d'entente et de coopération pour le salut des populations. Mmh. Eh bien, même là, c'est très, très compliqué.
On l'a bien vu avec la pandémie, combien cette coopération était compliquée et difficile, Nicolas Rigaud. Mmh.
Et donc, pour l'article que vous mentionniez, ça a été longtemps, ça est toujours une zone quand même marquée plus par la coopération que par la compétition. Le Conseil de l'Arctique a organisé la coopération en matière de secours aux populations, en matière de ressources. Et là, le conflit en Ukraine montre la fragilité de ces structures et que la géopolitique peut faire éclater, je dirais, des espaces de coopération. Cela est préoccupant. Mmh. Il y a un autre exemple que j'aimerais mentionner, c'est celui en Indo-Pacifique, une initiative américaine lancée par le commandement américain qui s'appelle Indo-PACOM. Ils ont lancé, il y a une dizaine d'années, un forum qui s'appelle le Pacific Environmental Security Forum et qui invite l'ensemble des pays de la région à travailler sur les questions environnementales, de sécurité environnementale, même si ce concept est assez flou et très mal défini. Néanmoins, les Chinois sont présents. Et donc, on peut dire, oui, alors, très bien, on peut donc coopérer et se parler, même si nous sommes en compétition d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique. C'est vrai, mais en même temps, attention...
Derrière la coopération, il y a l'influence,
oui, mais,
Nicolas
oui, mais
Rigaud.
Non. Oui, mais exactement. Et c'est pas si simple que ça.
Non, donc, parce qu'on imagine bien les sûr. Américains, en rivalité absolue avec la Chine, exactement. Ne pas voir d'un meilleur œil cette coopération chinoise, parce que qui dit coopération dit influence,
et ça pose problème. Et les Chinois, aujourd'hui, qui développent une diplomatie de l'assistance aux populations post-catastrophe naturelle, y ont vu un vecteur d'influence politique. Et donc, on voit bien que la coopération, même dans sur ces sujets-là, peut être impactée par les rivalités et les compétitions de puissance.
Donc, nécessité d'une réponse collective, oui, très clairement. Mais voilà, comme vous le dites, les rivalités... Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose, Bastien Alex.
Je voulais juste peut-être rajouter effectivement un élément important qui a été souligné et sur lequel il faut vraiment appuyer, c'est cette nécessité de coopération dans le cadre du secours aux populations qui sont touchées par des catastrophes naturelles. Et je prends l'exemple du cyclone Idai aussi qui avait frappé le Mozambique. Il y a deux questions. Il y a à la fois prévoir la coopération en amont pour permettre, par exemple, à la France de débarquer au Mozambique pour prêter main forte aux autorités locales. Quand on est une armée et qu'on débarque sur le sol d'un État, ça fait toujours un petit peu peur, hein. C'est souvent le cas. Et il y a la question aussi des moyens, encore une fois. C'est un arbitrage. Est-ce qu'on a des moyens qui sont disponibles et mobilisables à proximité dans un laps de temps court? Là aussi, il y aura sans doute à l'avenir des choix à faire sur peut-être s'il y a deux catastrophes concomitantes, peut-être choisir de porter secours à tel pays ou tel autre. Et ça, il faut l'avoir en tête. Donc ça plaide aussi pour des moyens, peut-être des moyens prépositionnés aussi un peu plus importants en fonction des régions. Et je voulais juste ajouter un mot sur la question de l'Ukraine. Ce qui est très important aussi aujourd'hui, c'est qu'on voit, bon, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, mais il y a ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ukraine, un des principaux producteurs de blé en Europe. Vraisemblablement, on est tous d'accord pour dire qu'à mon avis, la récolte 2022 ne sera pas géniale.
Dieu sait qu'ils y travaillent tout de même.
Dieu sait qu'ils y travaillent, mais bon, ça risque d'être compliqué. On ne sait pas aussi quelles seront les quantités mises sur les marchés et destinées à l'export.
Et puis comment vendre ou ces céréales
La question, c'est qu'il y a énormément de pays, notamment africains, qui sont dépendants de leurs importations pour leur approvisionnement céréal. Si on a, comme ça se prépare, une très mauvaise saison aussi en France, en lien avec le stress hydrique et ce déficit pluviométrique qui est déjà là, comment est-ce que tout ça aura des répercussions sur la stabilité, des émeutes de la faim éventuellement à prévoir dans les pays africains? Donc ça, c'est aussi toujours quelque chose à garder en tête, parce que ça va forcément avoir des répercussions.
C'était le sujet d'une émission récente sur dans géopolitique. Julia Tass.
Oui, simplement pour mettre en lumière ce fait, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé jusqu'à présent de l'impact du changement climatique direct sur les populations, que ce soit les événements climatiques extrêmes ou la gestion de l'eau, par exemple. Mais là, ce à quoi on assiste avec la guerre en Ukraine et en fait le croisement entre cette guerre et les dépendances de certains pays aux flux internationaux, c'est que le changement climatique va venir aussi a posé une pression supplémentaire sur la mondialisation. Tout se fait à flux tendu. Le Covid a été la première révélation des dysfonctionnements éventuels de ces flux tendus mondiaux et mondialisés. Et la guerre en Ukraine révèle aussi que on ne peut pas aujourd'hui garder ce système en état, parce que si on croise des sécheresses dans certaines parties du monde et des conflits dans d'autres parties du monde, on va arriver à finalement une pression très très forte sur les marchés internationaux. Et donc la question se pose aussi de l'impact du changement climatique sur la mondialisation, qui va avoir des répercussions essentielles, enfin inévitables, sur les services essentiels qu'on va proposer aux populations.
Et une demande peut-être de rôle accru de l'Organisation mondiale du commerce. Nicolas Rogaud.
Oui, j'ajouterais à la suite de ce que vient de dire Julia, que pour les armées, pas uniquement pour les armées, mais nous en tirons aussi des réflexions intéressantes sur la nécessaire simplification ou maîtrise des flux dont nous sommes dépendants, et peut-être une meilleure autonomisation, une plus grande autonomisation sur le plan énergétique et hydrique. Le projet lancé par les armées qu'on appelle EcoCan, qui vise à développer l'autonomie hydrique et énergétique des camps projetés, vise justement à aussi gagner en autonomie et réduire la vulnérabilité de nos flux logistiques, qui sont, vous le savez, très importants dans les opérations extérieures du type Sahel. La logistique hydrique et énergétique est très importante, et elle est par construction vulnérable à des actions hostiles. Donc l'autonomisation, autant que possible, sur le plan hydrique et énergétique, renforce aussi la sécurité des forces. Donc il y a une réflexion certainement à avoir du fait de ces deux coups de semonce qu'ont été la crise Covid et aujourd'hui la crise d'Ukraine sur la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondialisées hyper complexes et qui révèle nos vulnérabilités, une réflexion sur une meilleure maîtrise des flux.
Alors, le temps tourne. Il y a une organisation dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent. Il nous reste une minute pour le faire. C'est l'OTAN. Est-ce qu'il y a un rôle pour l'OTAN, puisqu'on parle de ces questions de liens entre dérèglement climatique, politique de défense et adaptation des armées aux défis posés pour l'OTAN, quel questionnement, Nicolas Rogaud ?
Il y a une accélération du tempo. L'Union européenne a adopté une feuille de route au mois de janvier 2021 sur le thème forces armées et changement climatique. Et 6 mois plus tard, le plan d'action de l'OTAN, adopté lors du sommet de juin 2021, plan d'action sur la défense et changement climatique et sécurité, qui va engager l'organisation dans un ensemble de réflexions, peut-être la création d'un centre d'excellence qui est prévu bientôt au Canada sur climat et sécurité. Donc il y a toute une démarche à la fois d'anticipation, de réflexion aussi sur les questions énergétiques, c'est-à-dire quelle méthodologie pour bien mesurer l'impact des forces armées sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie, etc. Donc il y a toute une démarche collective de réflexion et d'engagement des États dans un processus d'appropriation et d'adaptation.
Merci Nicolas Rogaud. Je rappelle que vous êtes conseiller climat du major général des armées, directeur du groupe de travail qui a élaboré la stratégie climat et défense du ministère des armées, ancien chercheur à l'IRSEM et co-directeur avec Bastien Alex de la guerre chaude aux presses de Sciences Po. Julia Tasse, chercheuse à l'IRIS et responsable du programme de recherche climat, énergie et sécurité. Et Bastien Alex, responsable du programme climat, énergie au WWF France, également chercheur associé à l'IRIS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher. À samedi prochain.